Introduction du discours prononcé par Victor Hugo en 1846 devant l'Assemblée nationale pour la consolidation et la défense du littoral et le désensablement du fameux port de Courseul.
Messieurs, si on venait vous dire, une de vos frontières est menacée. Vous avez un ennemi qui, à toute heure, en toute saison, nuit et jour, investit et assiège une de vos frontières.
Ça peut pas faire de mal.
Si l'on vous disait cela, à l'instant même, cette chambre se lèverait et trouverait que ce n'est pas trop de toutes les forces du pays pour le défendre contre un pareil danger. Eh bien, messieurs les pairs, cette frontière, elle existe, c'est votre littoral. Cet ennemi, il existe, c'est l'océan.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. C'était lu par mon collègue et ami Denis Podalydès, avec qui j'ai l'immense plaisir de lancer deux émissions à la veille des élections présidentielles consacrées à cet exercice particulier du pouvoir, les discours politiques.
Si vous espérez vous adresser au public, sachez que la loi l'interdit.
Le tribunal, c'est moi qui l'ai fait instituer. Alors, je veux bien le connaître.
Vous avez la parole.
France !
Vous n'avez pas le droit de vous adresser au public.
Pendant 5 ans, j'ai été ton chef et ton compagnon. Mon nom marque chaque page de ton histoire. Est-ce vrai? Oui ou non?
Avant d'aborder la semaine prochaine les grands discours internationaux du XXe siècle, écoutons ce soir l'éloquence des plus célèbres orateurs qui ont marqué l'histoire avec un grand H, de Périclès au révolutionnaire de 1789, sans oublier les serviteurs des grandes causes sociales des XIXe et XXe siècles, de Jules Ferry à Robert Badinter.
N'attendez pas d'un révolutionnaire une défense froide, je vais parler toute la journée s'il le faut, je vais crier et on entendra ma voix.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès est à la tête de l'empire athénien formé par la Ligue de Délos. Athènes connaît son âge d'or que les historiens désigneront comme le siècle de Périclès. Convaincu de sa supériorité politique et maritime, le stratège annonce en 431 la reprise du conflit contre Sparte. C'est le début de la seconde guerre du Péloponnèse qui aboutira à la chute d'Athènes en 404 avant Jésus-Christ et à la disparition de la démocratie au profit de la tyrannie des Trente. Mais revenons au début des événements. En 430, après un an d'une guerre qui en durera 27, une épidémie de peste alourdit les pertes athéniennes. Malgré la contestation du peuple, Périclès annonce la poursuite des hostilités. Voici l'ultime discours qu'il prononce devant l'Assemblée avant de succomber lui-même l'année suivante à la peste.
Atterré par vos malheurs privés, vous ne pensez plus au salut de la collectivité et c'est à celui qui vous a conseillé de faire la guerre que vous vous en prenez. Et pourtant vous attaquez en ma personne un homme qui, je crois, ne le cède à nul autre quand il s'agit de discerner la politique à suivre et de vous l'expliquer. Un homme aussi qui aime son pays et qui est inaccessible à la tentation de l'argent. S'il est vrai que, au moment où vous avez suivi mes conseils et décidé de faire la guerre, vous reconnaissiez en moi ces qualités, vous êtes bien malvenu maintenant à me considérer comme un coupable. Sans doute, quand on a le choix et qu'on se trouve par ailleurs dans une situation prospère, est-ce une grande sottise de faire la guerre? Mais quand on ne peut échapper à cette alternative, soit de céder pour subir aussitôt le joug de l'étranger, soit d'affronter les périls avec l'espoir de triompher, alors il est plus honorable de braver le danger que de s'y dérober. Je reste quant à moi le même, je ne change pas. C'est vous qui êtes inconstant. Il faut pourtant que, citoyens d'un État puissant, vous consentiez à affronter les plus rudes épreuves et ne permettiez pas que s'effondre votre prestige. Endurcissez-vous donc contre vos souffrances particulières et ne vous préoccupez plus que du salut commun. Je vous déclare, moi, que sur les deux éléments qui s'offrent à l'usage des hommes, c'est-à-dire la terre et la mer, il en est un dans lequel vous êtes les maîtres absolus partout. Étant donné la flotte que vous possédez, ni le roi de Perse, ni aucune autre nation aujourd'hui existante n'est en état de faire obstacle sur mer à vos entreprises. Ne vous montrez pas moins vaillant que vos pères, qui eurent le double mérite de conquérir un empire dont ils n'avaient pas hérité, et ensuite de le conserver pour vous le léguer. Affrontez donc l'ennemi, la tête haute, et mieux encore, avec une hautaine assurance. Ce prestige que notre cité doit à son empire, il est juste que vous le défendiez, puisque vous en tirez tous gloire. C'est une responsabilité à laquelle vous ne pouvez pas vous dérober. Ce qui est en jeu dans ce combat, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas seulement la question de savoir si nous resterons libres ou si nous deviendrons des esclaves. Il s'agit encore de ne pas perdre notre empire et d'échapper à la menace que font peser sur nous les haines suscitées par notre domination. Et vous n'avez plus la possibilité de vous démettre. Il se peut que les gens dépourvus d'ambition ne nous approuvent pas. Mais ceux qui voudront, à leur tour, être des hommes d'action, nous prendrons pour modèle. À vous donc de choisir une ligne de conduite qui vous permettra de sauver l'honneur aujourd'hui et de laisser à la postérité un glorieux souvenir.
Évoquons à présent l'un des plus brillants orateurs du grand siècle, Bossuet. Surnommé l'aigle de Meaux pour l'acuité de ses sermons, l'évêque de Meaux, donc, est célèbre pour ses oraisons funèbres, et en particulier pour celle prononcée le 21 août 1670 en l'honneur de la jeune princesse Henriette d'Angleterre, petite-fille du roi Henri IV, décédée à l'âge de 26 ans. Bossuet bouleverse l'assistance par sa complainte « Madame se meurt, Madame est morte ». Exercice de style, l'oraison est aussi un discours public qui influence l'opinion. Voici un extrait d'une autre oraison, celle du prince de Condé, cousin de Louis XIV, qui s'illustra en 1643 à la bataille de Rocroi contre les Espagnols et mourut en 1686. À la demande du roi Soleil, voyons comment l'éloquence de Bossuet participe à la construction d'un mythe politique qui légitime au passage l'absolutisme de droit divin.
Quelle partie du monde habitable n'a pas oui les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie ? Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire que leurs seules actions les peuvent louer. Toute autre louange languit auprès des grands noms. Et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. Mais en attendant que l'histoire, qui doit ce récit au siècle futur, le fasse paraître, il faut satisfaire comme nous pourrons à la reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de tous les rois. Ici, un plus grand objet et plus digne de cette chair se présente à ma pensée. C'est Dieu qui fait les guerriers et les conquérants. S'il inspire le courage, il ne donne pas moins les autres grandes qualités naturelles et surnaturelles, et du cœur et de l'esprit. Tout part de sa puissante main. C'est lui qui envoie du ciel les généreux sentiments, les sages conseils et toutes les bonnes pensées. Ce qui distingue ses amis de ses ennemis, c'est la piété. Sans ce don inestimable de la piété, que serait-ce que le prince de Condé avec tout ce grand cœur et ce grand génie ? Mettons ensemble aujourd'hui, car nous le pouvons dans un si noble sujet, toutes les belles qualités d'une excellente nature. Et à la gloire de la vérité, montrons dans un prince admiré de tout l'univers que ce qui fait le héros, ce qui porte la gloire du monde jusqu'au comble, valeur, magnanimité, bonté naturelle, voilà pour le cœur, vivacité, pénétration, grandeur et sublimité de génie, voilà pour l'esprit, ne serait qu'une illusion si la piété n'y était jointe. Et enfin que la piété est le tout de l'homme. Dieu nous a révélé que lui seul fait les conquérants, et que seul il les fait servir à ses desseins. Quel autre a pu former un Alexandre, si ce n'est ce même Dieu qui en fait voir l'ardeur indomptable à son prophète Daniel ? Le voyez-vous, dit-il, ce conquérant, avec quelle rapidité il s'élève de l'Occident comme par bond et ne touche pas à terre ? À n'entendre que ces paroles de Daniel, qui croiriez-vous voir, messieurs, sous cette figure ? Alexandre ou le prince de Condé ? Dieu donc lui avait donné cette indomptable valeur pour le salut de la France pendant la minorité d'un roi de 4 ans. Laissez-le croître, ce roi chéri du ciel. Tout cédera à ses exploits. Supérieur aux siens comme aux ennemis, il saura tantôt se servir, tantôt se passer de ses plus fameux capitaines. Et seul sous la main de Dieu, qui sera continuellement à son secours, on le verra l'assuré rempart de ses états.
Elle s'était fait offrir un collier de diamants qui valait 30 millions.
Eh ben, on va l'acheter.
Eh ben, t'as raison, c'en est trop. Et si ce n'est pas vous autres qui donnez l'exemple, c'est nous, les femmes, vous entendez, qui vous le donneront. Mais pourquoi ris-tu en me regardant, hein, grande saucisse?
Parce que généralement, t'es plutôt une farceuse.
Après les grands hommes, faisons place à la parole politique des femmes, à travers une héroïne méconnue de la Révolution française.
En route pour Versailles. Et j'arrive.
le nom d'Anne-Joseph Théroigne, dite Théroigne de Méricourt, ne vous dira rien peut-être. Et pourtant, un poème de Baudelaire salue le courage de cette amante du carnage. Issue d'une famille de paysans, cette jeune Belge tente d'abord à Londres une carrière de chanteuse, sans succès, avant de s'installer à Paris en 1789, où elle s'enthousiasme pour la Révolution et y crée un club politique. Affrontant les pires calomnies, elle crée un bataillon de femmes, les Amazones, qui s'entraînaient sur le champ de Mars et qui participera à la fameuse prise des Tuileries le 10 août 1792. Mais si les femmes sont révolutionnaires, la révolution n'est pas féministe. Et en 1793, un décret interdit toute association féminine et les femmes révolutionnaires connaissent bientôt un sort tragique. On se souvient de l'âme de gauche qui est guillotinée. Théroigne de Méricourt, elle, sera internée à la Salpêtrière où elle mourra en 1817. Voici son appel aux armes qu'elle prononce le 25 mars 1792. Citoyenne, quoi que nous ayons remporté des victoires, qu'un tyran soit mort et que l'Assemblée nationale montre une énergie qui ranime l'espérance des amis de la patrie, nous sommes toujours en danger. Les torches de la guerre civile sont prêtes à s'allumer. L'étendard de la contre-révolution est arboré dans plusieurs parties de l'Empire. Partout, mais particulièrement dans Paris, des scélérats soudoyés ont un plan de division intestine qu'ils suivent avec la plus grande activité afin de préparer des parties qui seront toujours funeste à la liberté si votre vigilance ne déjoue les trames criminelles ourdies par nos ennemis. Citoyennes, n'oublions pas que nous nous devons tout entière à la patrie. Armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des lumières du XVIIIe siècle. En méprisant les préjugés, qui par cela seuls qu'ils sont préjugés sont absurdes, souvent immoraux, en ce qu'ils font un crime des vertus. On va essayer de nous retenir en employant les armes du ridicule, de la calomnie et tous les moyens bas que mettent ordinairement en usage les hommes vils pour étouffer les élans du patriotisme dans les âmes faibles. Mais, Françaises, actuellement que les progrès des Lumières nous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l'ordre social. Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées, brisons nos fers. Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Et si nous voulons conserver notre liberté, il faut que nous nous préparions à faire les choses les plus sublimes. Oui. Généreuses citoyennes, vous toutes qui m'entendez, armons-nous, allons nous exercer deux ou trois fois par semaine aux Champs-Élysées ou aux Champs de la Fédération, ouvrons une liste d'Amazones françaises et que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. En finissant, qu'il me soit permis d'offrir cet étendard tricolore aux citoyennes du Faubourg Saint-Antoine.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes
peignent cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Restons en cette année 1792 où les discours politiques se déchaînent pour ou contre le procès de Louis XVI. Le 21 septembre 1792, la Convention abolit la royauté et proclame la République. En novembre, après la découverte de lettres prouvant sa collusion avec les monarchies européennes, le roi est accusé de trahison. Faut-il un procès pour juger Louis XVI ? Les Jacobins sont pour, les Girondins contre. Dans son discours à l'Assemblée du 3 décembre, Robespierre, le chef des Montagnards, défend une position radicale. Le roi n'est pas sujet de droit, il est coupable de fait. Et lui faire un procès peut mettre en danger la Révolution. Voici un extrait de son plaidoyer implacable pour le régicide. Arrêté le 20 novembre 1792, Louis XVI est condamné à mort le 15 janvier 1793 et guillotiné le 21 janvier. L'année suivante, Danton et Robespierre connaîtront le même sort.
Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous êtes, vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Quel est le parti que la scène politique prescrit pour cimenter la République naissante ? C'est de graver profondément dans les cœurs le mépris de la royauté et de frapper de stupeur tous les partisans du roi. Louis fut roi et la République est fondée. La question fameuse qui vous occupe est décidée par ces seuls mots. Louis est détrôné par ses crimes. Louis dénonçait le peuple français comme rebelle. Il a appelé, pour le château, les armes des tyrans, ses confrères. Or, la victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle. Louis ne peut donc être jugé. Il est déjà condamné. Il est condamné où la République n'est point absoute. Proposer de faire le procès à Louis XVI, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel. C'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre la Révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l'objet d'un procès, Louis peut être absous. Il peut être innocent. Que dis-je ? Il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution ? N'est-elle pas encore incertaine et douteuse ? Si Louis est innocent, tous les défenseurs de la liberté deviennent des calomniateurs, et les rebelles étaient les défenseurs de l'innocence opprimée. La détention même que Louis a subie jusqu'à ce moment est une vexation injuste. Le peuple de Paris, tous les patriotes français sont coupables, et le grand procès entre le crime et la vertu, entre la liberté et la tyrannie, est enfin décidé en faveur du crime et de la tyrannie. Citoyens, prenez-y garde. Vous êtes trompés par de fausses notions. Vous confondez encore la situation d'un peuple en révolution avec celle d'un peuple dont le gouvernement est affermi. Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires. Ils ne vendent point de sentences. Ils lancent la foudre. Ils ne condamnent pas les rois. Ils les replongent dans le néant. Et cette justice vaut bien celle des tribunaux.
Pourquoi faut-il me tuer ? Je suis le seul à pouvoir répondre. Il faut me tuer parce que je suis sincère. Il faut me tuer parce que je dis la vérité. Et il faut me tuer parce que je fais peur. Voilà les trois raisons qui condamnent, qui entraînent l'assassinat d'un honnête homme.
Une autre grande revendication des orateurs révolutionnaires, l'abolition de l'esclavage. Le 4 février 1794, Danton clôt une séance historique de la Convention qui proclame l'émancipation des esclaves en réponse au soulèvement des Noirs dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti. La révolte de 50 000 esclaves est alors soutenue par les Espagnols, mais combattue par les troupes anglaises. Deux mois avant sa condamnation par le tribunal révolutionnaire qu'il a lui-même créé, la forte personnalité de l'avocat devenu ministre de la Justice et chef du comité de salut public impressionne toujours. Celui qui s'est rendu célèbre par la formule « de l'audace, toujours de l'audace » en pleine guerre contre la Prusse, témoigne du même patriotisme exalté. Mais la victoire est éphémère puisque l'esclavage sera rétabli par Bonaparte en 1802. Il faudra attendre 1848 pour qu'il soit définitivement aboli. Convention 16 pluviose en deux. Représentants du peuple français, jusqu'ici nous n'avions décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls. Mais aujourd'hui nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle. Hier, lorsque le président donna le baiser fraternel aux députés de couleur, je vis le moment où la Convention devait décréter la liberté de nos frères. Elle vient de faire son devoir. Mais après avoir accordé le bienfait de la liberté, il faut que nous soyons, pour ainsi dire, les modérateurs. Renvoyons au comité des colonies pour combiner les moyens de rendre ce décret utile à l'humanité, sans aucun danger pour elle. Nous avions déshonoré notre gloire en tronquant nos travaux. Les grands principes développés par le vertueux Las Casas avaient été méconnus. Nous travaillons pour les générations futures. Lançons la liberté dans les colonies. C'est aujourd'hui que l'anglais est mort. En jetant la liberté dans le nouveau monde, elle y portera des fruits abondants, elle y poussera des racines profondes. En vain, les Anglais et leurs complices voudront, par des considérations politiques, écraser la jouissance de ce bienfait. Ils vont être entraînés dans le néant. La France va reprendre le rang et l'influence que lui assure son énergie, son sol et sa population. Nous jouirons nous-mêmes de notre générosité. Mais nous ne l'étendrons pas au-delà des bornes de la sagesse. Nous abattrons les tyrans comme nous avons écrasé les hommes perfides qui voulaient faire rétrograder la Révolution. Ne perdons point notre énergie, lançons nos frégates, soyons sûrs des bénédictions de l'univers et de la postérité et décrétons le renvoi des mesures à l'examen des comités. Si le 19e siècle est bien l'autre siècle des révolutions, il voit la réalisation d'une utopie chère à celle de 1789, l'enseignement laïque. En 1792, le philosophe Condorcet défend à l'Assemblée législative un projet d'éducation universelle qui inspirera 100 ans plus tard le ministre le plus célèbre de la Troisième République, Jules Ferry, dans la rédaction de la fameuse loi du 28 mars 1882 rendant l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais en cette fin de siècle mouvementée, les conservateurs cléricaux crient au retour de la guerre de religion. Dès lors, pour Jules Ferry, l'anticléricalisme se confond avec la défense de la cause républicaine. Voici un extrait de son discours à la Chambre des députés du 6 juin 1889, intitulé « Nous tenons fermement à l'école laïque ». Je ne crois pas faire en aucune façon preuve d'héroïsme en venant défendre ici l'œuvre scolaire de la République contre une polémique qui pourrait être dangereuse si elle n'était pas réfutée. Cette œuvre, messieurs, elle est aujourd'hui, elle sera assurément aux yeux de l'histoire, le titre principal de la Troisième République à la reconnaissance de l'histoire et du pays. Car cette œuvre scolaire de la Troisième République n'est pas une œuvre personnelle. Elle n'appartient en propre à qui que ce soit dans le Parti républicain. Elle appartient au pays républicain tout entier. Oui, messieurs, la Troisième République a réalisé ce système d'éducation nationale entrevu et conçu par nos pères. Il est un peu de mode, au temps où nous sommes, à 100 ans de distance de ces grands hommes et de ces grandes choses, de reprocher à la Révolution française et aux hommes de 1789 l'avortement de beaucoup d'espérances. Oui, la Révolution n'a pas réussi dans tout ce qu'elle avait entrepris. L'histoire peut enregistrer à son passif des échecs éclatants, mais ici, nous avons le droit de le dire, le succès est complet. Ce système d'éducation nationale sans monopole, qui relie dans un cadre à la fois puissant et souple l'école élémentaire aux plus hautes parties du savoir humain, ce système d'éducation nationale au frontispice duquel on n'a pas craint d'écrire que l'enseignement est un devoir de justice envers les citoyens, que la société doit à tous le nécessaire du savoir pratique et l'avènement au degré successif de la culture intellectuelle de tous ceux qui sont aptes à les franchir, cette mise en valeur du capital intellectuel de la nation, de toutes les capacités latentes de tous les génies qui peuvent être méconnus ou étouffés dans une grande et féconde démocratie, messieurs, c'était le rêve de nos pères. Et nous avons le droit de déclarer qu'autant qu'il est possible de dire qu'une chose est accomplie grâce à vous, grâce au pays, votre principal collaborateur dans cette grande œuvre, grâce au pays qui en a été l'âme, ce rêve est devenu une réalité. Voilà pourquoi nous ne pouvons remettre qu'à un pouvoir civil, laïque, la surintendance de l'école populaire, et pourquoi nous tenons, comme à un article de notre foi démocratique, au principe de la neutralité confessionnelle. Voilà pourquoi nous tenons fermement à l'école laïque. Voilà pourquoi vous n'obtiendrez de nous, sur ce point, ni acte de contrition, ni retour en arrière. Voilà 7 ans que le prêtre donne en toute liberté 2 jours de la semaine, le dimanche et le jeudi, l'éducation religieuse aux enfants qui fréquentent l'école. Voilà 7 ans que tous les instituteurs de France, tenus de se conformer au programme rédigé et voté par le Conseil supérieur de l'instruction publique, enseignent aux enfants des écoles une morale dans laquelle il y a un chapitre spécial qui porte ce titre « Des devoirs envers Dieu ». Alors que l'on cesse de dire que nos écoles primaires sont des écoles sans Dieu. Surtout quand une grande société religieuse comme la société catholique jouit dans un pays comme la France de libertés aussi étendues que les vôtres. Quand votre église, quand votre propagande religieuse est illimitée, quand elle possède plus de 40 000 chaires et plus de 40 000 pasteurs vacant librement à l'accomplissement de leur ministère, quand elle est dotée d'un budget qui dépasse tous les budgets de la Restauration et la Monarchie de Juillet. Si les catholiques qui jouissent de telles libertés, je devrais dire de tels privilèges, prétendent qu'ils sont persécutés, qu'ils sont les victimes d'une guerre religieuse, ils donnent un démenti à l'éclatante vérité des faits. Ils ne sont pas persécutés, ils sont bien prêts de devenir persécuteurs. Voilà pourquoi, messieurs, nous restons donc profondément attachés à l'école laïque.
Ridicule de Patrice Lecomte.
Vos premières armes, monsieur, peuvent nous donner quelque espoir.
Ce méchant petit abbé est un intime de la reine. Et je m'en suis fait un ennemi.
C'est le bel esprit qui ouvre les portes. Et vous n'en êtes pas dépourvu.
Qui se soucie du pays de Dombes?
Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombes aura ses entrées à Versailles.
Jamais de calembour. On les méprise à Versailles. Le calembour est éteignoir de l'esprit. Voltaire, ma lecture de chevet.
Ah, Voltaire. Une dernière chose. Ne riez jamais à vos propres mots.
Passons au XXe siècle avec un autre combat politique, celui des suffragettes. Président de la République de 1913 à 1920, Raymond Poincaré est l'instigateur de la fameuse politique d'unité nationale, l'Union sacrée, rassemblée autour d'Aristide Briand et Georges Clémenceau, qui mènera à la victoire de la Première Guerre mondiale. Un an après son septennat, Poincaré est invité par les suffragettes françaises à se prononcer sur leurs 2 grandes revendications. Le droit de vote, qui ne sera accordé qu'en 1944, et l'éligibilité des femmes. Devant la Ligue française pour le droit des femmes, il défend une réforme modeste, l'accès des femmes aux fonctions municipales. Mais l'ensemble de son discours, prononcé le 3 décembre 1921 au Palais du Trocadéro, légitime la notion de parité en politique. Il est aussi un hommage vibrant au rôle des femmes pendant la Grande Guerre.
Mesdames, messieurs, les réformes que réclame la Ligue française pour le droit des femmes, et dont quelques-unes apparaissent à certains esprits comme de périlleuses révolutions, s'accompliront. Je n'en doute pas. Tout aussi aisément que celles dont je me félicite d'avoir été jadis l'un des inspirateurs. Quand on aura donné à la femme mariée la capacité civile, quand on aura garanti aux femmes, dans les administrations publiques, un statut régulier, on s'étonnera d'avoir tant hésité à réaliser des progrès aussi simples et d'avoir infligé à la justice et au bon sens une attente aussi prolongée. Malgré les résistances que certains de mes collègues et amis du Sénat continuent d'opposer à l'institution du droit de suffrage, je ne mets pas en doute qu'ils citent également les idées de liberté et d'égalité humaine finiront par l'emporter. Quelle injure, n'est-ce pas, faire à la femme française que de lui refuser la faculté de voter, alors qu'aujourd'hui, les femmes de presque toutes les nations sont électrices et éligibles. Contrairement, d'ailleurs, à la réputation qu'on essaie de leur faire, les femmes sont patientes et elles ne cherchent point à brûler les étapes. Elles acceptent parfaitement qu'on ne leur donne satisfaction que par échelon et elles ne revendiquent pas l'honneur de siéger dès demain dans nos assemblées parlementaires. Mais pourquoi ne pas commencer par leur ouvrir, à titre d'épreuve, l'accès aux conseils municipaux ? On nous avait dit jusqu'ici, l'essai n'a été fait que dans les pays scandinaves ou anglo-saxons, il n'est donc pas décisif. Il a eu lieu maintenant, à nos portes, dans les pays latins et dans des régions de langue française comme la Belgique. Et il n'a pas été moins démonstratif. J'ajoute même qu'il a également été fait chez nous, durant la guerre, et d'une manière, s'il est possible, encore plus significative. Il s'est trouvé des communes dont les habitants mâles étaient les uns partis pour les pays annexés, les autres emmenés comme otages. Des femmes ont dû se mettre à la tête de plusieurs municipalités, et j'ai été reçu dans certains villages par des femmes mères, dont tous les citoyens me vantaient la noblesse d'âme et l'esprit d'abnégation. Ce qui a pu se faire, en dehors de la loi, dans des circonstances tragiques, restera-t-il donc légalement impossible dans le cours ordinaire de la vie nationale ? Il semblait cependant que de 1914 à la fin de 1918, les femmes eussent définitivement conquis droit de cité dans la République. En France, comme en Belgique, n'ont-elles pas admirablement rempli les devoirs que leur dictait le patriotisme ? Dans les ambulances du front, les infirmières ont bravé la continuelle menace du bombardement. Dans les localités envahies, beaucoup sont tombés sous les balles allemandes. Des épouses et des mères ont remplacé, dans les travaux des champs ou des usines, leurs maris ou leurs fils absents. Partout, les femmes ont donné l'exemple du courage, de la persévérance et du sang-froid. Les unes ont traversé les lignes pour renseigner nos armées. D'autres ont tenu tête aux envahisseurs, caché des soldats alliés, nourri des prisonniers au péril de leur vie. D'autres ont ravitaillé des communes, cultivé les terres, épuisé leur santé dans les besognes les plus dures. Tous, tant que nous sommes, nous avons fait alors, et c'était justice, des éloges enthousiastes de la femme française. Pensons-nous donc que l'heure soit venue d'oublier ce que nous avons vu et ce que nous avons dit ? Les épouses qui ont perdu leur mari sur les champs de bataille, les mères qui ont perdu leur fils, toutes les femmes qui ont aidé à sauver la France. Nous semble-t-elle donc suffisamment remerciée par de vaines paroles envolées ? Non ! Il leur est dû autre chose. Elles ont été les égales des hommes dans la guerre. Nous ne voudrons pas leur refuser, dans la paix, le moyen de faire entendre leur voix. Nous ne voudrons pas leur dénier le droit de travailler avec nous, de tout leur cœur, au relèvement de notre pays.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Toi tout bas, tu je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal à toi parfois, même si je ne le vis pas, je pense à toi tout bas.
En 1977, l'affaire Patrick Henry relance le débat sur la peine de mort. Défendu par, à l'époque, l'avocat Robert Badinter, le meurtrier échappe à la guillotine et est condamné à perpétuité. Mais il faudra attendre l'élection de François Mitterrand en 1981 pour que soit votée l'abolition de la peine immonde, comme l'appelait déjà au XIXe siècle Victor Hugo ou Jean Jaurès.
Qu'on ne s'y trompe pas, ça n'est pas un débat politique qui s'est ouvert cet après-midi à l'Assemblée, c'est un débat de conscience. La question posée aux députés dépasse largement les problèmes d'étiquette ou de clan. Il s'agit de savoir si on va continuer en France à couper les criminels en deux. 16h cet après-midi à l'Assemblée, il porte un costume de ville, mais il pourrait aussi bien avoir sa robe d'avocat. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, prononce son ultime plaidoirie contre la guillotine.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue.
Après l'Espagne en 1978, la France est alors l'un des derniers pays européens à abolir la peine capitale. Voici donc un extrait de ce célèbre discours de Robert Badinter en tant que garde des Sceaux sur le perchoir de l'Assemblée. C'est de France, c'est de cette enceinte souvent que se sont levées les plus grandes voix qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser à Hugo, Camus, mais aussi à Gambetta, à Clémenceau et surtout au grand Jaurès ? Jaurès, que je salue en votre nom à tous, a été, de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison, celui qui a servi comme personne le socialisme, la liberté et l'abolition. En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l'abolition. Mais il se trouva qu'une partie de la presse répondit par une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre n'eut point le courage d'aller vers ces sommets que lui montrait Briand. Depuis lors, 75 ans, jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort. Je suis convaincu d'avoir certes moins d'éloquence que Briand, mais je suis sûr que vous, vous aurez plus de courage. Et c'est cela qui compte. Le plus haut magistrat de France, M. Edalo, disait qu'à la mesure de sa hasardeuse application, la peine de mort lui était devenue, à lui, magistrat, insupportable. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair. Où notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer au nom de ses valeurs fondamentales la vie de ceux qui font horreur, déments ou criminels, et c'est le choix de l'abolition, où cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. Thank you.
Pierre Mendès France.
Me voici ramené à cette idée que j'ai si souvent défendue du contact nécessaire entre le peuple, le Parlement et le gouvernement. Oui, le salut exige que le régime républicain soit fondé sur des relations étroites qui seules permettent la franchise réciproque la plus complète. Celle du gouvernement, qui explique sa politique jour après jour, qui ne biaise pas, qui ne dissimule pas et qui n'hésite pas à faire fond sur le bon sens, le courage et la foi du pays. Celle du Parlement, qui exprime fidèlement la volonté populaire et la fait respecter, et celle du pays tout entier, qui doit choisir son destin en pleine connaissance de cause pour l'accomplir d'une volonté affermie.
Et voici maintenant, pour conclure, un appel aux citoyens contre l'abstentionnisme, extrait du discours d'Evreux de Pierre Mendès France. Ancien résistant et ancien ministre démissionnaire de Charles de Gaulle, Pierre Mendès France incarne la conscience de la gauche. Au début des années 50, il négocie la fin de la guerre d'Indochine et travaille à l'indépendance de la Tunisie. Mais mis en minorité à l'Assemblée nationale le 6 février 1955, il est contraint de démissionner de la présidence du Conseil. Il tente alors de rassembler autour du Parti radical, dont il est l'un des principaux dirigeants, une grande force républicaine et démocratique. C'est à Évreux, le 23 juillet 1955, qu'il prononce l'un de ses plus importants discours politiques. Un discours fort, fondateur, en dehors de toute conjecture politique qui expose les principes de son action. Dans l'extrait suivant, il revient sur le rôle et le devoir des citoyens, au premier rang desquels figure le devoir électoral.
La démocratie vraie, c'est l'association intime, c'est la fusion de l'État et du citoyen. Aujourd'hui, le citoyen et l'État sont devenus étrangers l'un à l'autre. Le citoyen se détourne de l'État et l'État se méfie du citoyen. Oui, le citoyen se détourne de l'État. La meilleure preuve, le symbole le plus visible, c'est le grand nombre des abstentions. Dans une démocratie, les citoyens ont le devoir de contribuer au fonctionnement de la collectivité. Ils doivent participer à ses dépenses, c'est l'impôt. Ils doivent participer à l'administration générale, à la formation des décisions politiques essentielles, c'est le devoir électoral. C'est une faute grave pour un citoyen de ne pas remplir son rôle, de ne pas remplir son obligation sociale, et une pareille faute devrait être sanctionnée. Je suis partisan du vote obligatoire, avec pénalité à l'égard des déserteurs du devoir civique. Avant tout, les citoyens doivent s'intéresser activement à la vie publique. La vie politique sera, en dernière analyse, dans notre régime démocratique, ce que vous la ferez. Si les choses vont mal, modifiez-les. Vous le pouvez. Tout citoyen, s'il veut être digne de ce nom, doit exercer son influence sur les hommes qui le représentent, non pas tant pour les petites affaires, qui le concernent personnellement, mais pour les grandes affaires, celles qui intéressent le pays tout entier et qui, finalement, commandent le bonheur ou la ruine de tous. Vous n'avez pas le droit de vous abstenir. Vous devez suivre les problèmes nationaux et peser de toutes vos forces pour qu'ils reçoivent les solutions que vous estimez bonnes pour le pays. Vous devez le faire par une action de tous les instants, une action militante autour de vous. Vous devez dissuader ceux qui, autour de vous, sont enclins, eux aussi, à s'abstenir. Oui, vous devez continuellement militer, répandre vos convictions et vos idées. Si ce que vous entendez dire ici ce soir vous paraît bon, vous devez le répéter, le répandre autour de vous. Et si cela vous paraît mauvais, vous avez le devoir, dans vos commentaires, demain, au travail, à l'usine, dans la rue, au café, de combattre les idées qui vous paraissent dangereuses. Mais vous ne devez rester ni neutre, ni étranger, ni indifférent, car il s'agit finalement du bien ou du malheur de tous.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission en partenariat avec le magazine littéraire a été réalisée par Xavier Pestugia avec Frédéric Changenet à la technique. Merci à vous deux, merci aussi à Estelle Gap, Laura Elmaki et Isor Pisani-Ferry qui l'ont préparé. Et merci infiniment Denis pour ses lectures.
Merci beaucoup, c'est moi qui remercie.